frères et sœurs, dans la récente exhortation apostolique que le pape a faite sur, a écrite sur la parole de Dieu, il semble soucieux des homélies. Et il dit qu'il faut que les homélies ne soient pas vagues, abstraites, qu'elles ne fassent pas de divagations inutiles, qu'elles n'occultent pas la simplicité de la parole de Dieu. On va essayer. Et il en dit surtout le but, bien sûr. Les déterminations ne sont pas seulement négatives. Elles ont pour but de montrer le Christ. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance, ce n'est pas difficile. C'est justement ce que fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui dans la mémoire de l'Église depuis 20 siècles se résume à un index, en fait. Un index tourné vers l'agneau, l'agneau de Dieu, qui nous dit aussi notre vocation. Toute notre vie doit indiquer, doit être tournée vers la lumière du Christ qui va éclairer les nations, leur révéler tout ce qu'elles ont envie d'apprendre, de savoir et de découvrir. Il y a devant vos yeux le vitrail de la rosace ouest de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Si vous étiez dans la cathédrale, vous ne le verriez pas. Donc vous avez cette chance d'être aussi un peu dans notre maison. Le célébrant, lui, le voit, ou le prédicateur aussi. Et au-dessus de ce vitrail, il y a un autre petit médaillon dans lequel, justement, il y a l'agneau. Voilà, l'agneau tout seul. Un peu comme un rappel. Est-ce que tu montres l'agneau? Tout le monde connaît, bien sûr, le tableau étonnant qui fait un anachronisme monstre du retable d'Isenheim à Colmar, où au pied de Jésus crucifié, on voit Jean-Baptiste, qui a pourtant été décapité depuis quelque temps déjà, avec l'index tourné justement vers le Christ, et qui nous rappelle à la fin de l'évangile la première page, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Ce qui est frappant justement, c'est dans le mot « voici », il y a le verbe « voir ». Et voir et regarder, je le vois 5-6 fois dans l'évangile d'aujourd'hui. On a quelques versets à peine, mais quelle importance. Et donc, évidemment, parlera correctement du Christ ou le montrera correctement celui qui le voit. Qui voit le Christ? Nul ne voit Dieu, et Dieu s'est donné à voir dans le Christ, mais le Christ, est-ce que je le vois? Est-ce que je le connais? D'ailleurs, Jean-Baptiste, à cet égard, nous prévient bien. Il dit, moi, je ne le connaissais pas. Il parlait très bien de lui, il ne le connaissait pas. Il dit deux fois, je ne le connaissais pas. Et au moment où le Christ survient, lui qui parlait pourtant avec la force d'un colosse, on peut dire qu'il avait pris tout le peuple d'Israël par les épaules, il l'avait trempé dans le Jourdain pour la conversion de ses péchés. Et bien, quand le Christ apparaît, il est dérouté, il est perdu, il est dépassé. Je pense à vous, je pense au thème de votre congrès. Je pensais à la façon dont vous pensez, prévoyez, organisez, réfléchissez l'avenir, en essayant de dire la vérité, de chasser les obscurités, de déclarer la guerre aux cécités dont nous sommes plus ou moins complices, vous savez, dans la façon dont le monde avance, pour être clair devant vos responsabilités, ce qui est évidemment tout à l'honneur de l'homme responsable. Dans notre diocèse, pour un chemin de 3 ans qui nous conduit vers le 50e anniversaire du Concile Vatican II, j'ai voulu justement que cette année soit consacrée précisément à cela. Ta responsabilité d'homme dans la société, dans ta famille, pour justement donner le trésor qu'on nous a remis à la génération future dans tout le monde de l'éducation, mais aussi pour prendre ses responsabilités dans la vie sociale, ou professionnelle, ou dans l'engagement politique, ou dans l'argent, qui est quand même, chacun le sait, le lieu dernier de notre conversion. Ceci donc sera commandé par notre capacité à voir. Est-ce que j'ai vu, comme il dit, Jean-Baptiste voyait Jésus, et il dit j'ai vu l'Esprit descendre, j'ai vu, et c'est pourquoi je rends témoignage. Vous savez que tout l'évangile de Saint-Jean est construit sur ces deux verbes, voir et croire. Tout le monde a en mémoire les pages finales avec notre cher saint Thomas, auquel Jésus donne une leçon finale utile pour nous tous. Heureux ceux qui voient sans avoir cru. Pas l'inverse, heureux ceux qui croient sans avoir vu, pardon. C'est touchant d'ailleurs parce qu'au début de ce chapitre, on nous dit que de Jean, il vit et il crut. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Rien du tout justement. Il est rentré dans un tombeau et il a vu du linge. Il a vu rien. Et à partir d'un presque rien qu'il a vu, ah, C'est justement ça qui me rappelle la première page. Le Baptiste, au début, qui porte le même nom que lui, et Jean, à la fin, ils voient, mais ils reconnaissent qu'ils ne comprennent rien, ou qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils sont totalement dépassés par ce dont ils parlent. Et c'est ainsi qu'ils vont rendre leur témoignage. Témoignage, c'est aussi un mot très important, cet évangile. En fait, en lisant les dossiers qui m'ont été donnés pour préparer cette rencontre, ce congrès ou cette messe, en discutant avec certains d'entre vous, ou certains des aumôniers du MCC aussi, j'ai été étonné du nombre de fois où revient le mot témoignage. Nous sommes là pour témoigner. Témoigner dans nos responsabilités, témoigner dans l'entreprise où nous sommes. Donner ce témoignage qu'une parole qui nous dépasse nous habite et qu'elle est un bienfait pour l'humanité, qu'elle est une espérance pour le monde. Les difficultés, nous ne les nions pas, nous les vivons et nous en souffrons comme tout le monde. Et nous devons être témoins de cette espérance qui ouvre un avenir dont nous sommes concrètement responsables. Dans vos réflexions d'hier, dont on m'a aussi donné l'écho, on voit comment tout ceci repose, bien sûr aussi, sur d'autres domaines qui sont à approfondir. Tout un domaine de la morale ou de l'éthique. J'étais content de voir que d'ailleurs, au Collège des Bernardins à Paris, vous ai proposé le 20 mars, une journée de rencontre sur ces sujets, des fondements éthiques de votre responsabilité. Ou bien l'un des conférenciers hier qui dit, ce qui serait important, c'est de réfléchir au fondement spirituel de notre action. Parce que si nos échanges sont déconnectés de cet engagement de fond ou de notre greffe sur le Christ, alors ça ne pourra pas porter le fruit que nous attendons ou dont nous avons la responsabilité de le mettre en œuvre. Et voilà donc tout un travail immense qui est à faire collectivement et aussi par chacun de nous personnellement. En fait, quand nous agissons comme des individus ou des personnes responsables en fonction de la responsabilité qui est confiée à chacune et à chacun d'entre vous. Mais aussi, en tant que chrétiens, nous n'oublions pas que nous faisons corps avec le Christ et que nous sommes les membres d'un seul corps. Et qu'au fond, nous tous, collectivement, vous, dans le cadre du MCC ou tout l'ensemble du corps de l'Église, il est comme un accomplissement de la promesse faite par Jésus à la fin de l'Évangile, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. » Avec nous, il nous parle dans l'Évangile, il nous donne le bon pain vivant descendu du ciel pour nous nourrir. Mais à l'intérieur du monde aussi, il est par nous, ou plutôt nous, nous sommes en lui. Et notre témoignage, c'est la continuité de sa présence, toujours à cette double condition. Est-ce que vraiment je suis greffé sur lui? Est-ce que je suis quelqu'un qui voit, qui découvre, qui regarde, comme le Baptiste, la figure du Christ? Oserais-je le verbe, qui est capital dans le christianisme, pour tout le monde? Contempler le Christ. C'est un peu triste qu'on ait mis le verbe contempler chez les contemplatifs, c'est-à-dire un peu dans des monastères ou dans des lieux spéciaux, alors qu'il est vraiment premier dans l'Évangile, on le voit tout le temps. Celui qui écoute cette parole, qui essaye de regarder le Christ, comme Jésus lui-même faisait chaque matin, et essayer de recevoir cette parole, afin qu'une parole d'amour puisse être dite ou sortir de ses lèvres tout au long de la journée, quand il irait dans les villes et dans les villages. Au fond, la condition de votre témoignage, avec la richesse des échanges que vous vivez maintenant, est aussi la solidité de ses fondements, justement, dans l'enseignement moral ou éthique, qui nous est donné dans la parole de Dieu à partir de ces paroles de vie qu'on appelle peut-être à tort des commandements, mais qui sont au contraire les conditions d'une vie saine, d'une vie sociale, d'une vie de paix, comme ils nous sont donnés au peuple juif et à nous-mêmes dans les premières pages de la Bible, et prolongées dans la méditation de Jésus, dans les béatitudes où il nous décrit ce qu'est le visage de l'homme, et puis tout le travail spirituel à faire intérieurement. J'avais envie de vous poser cette question aujourd'hui. Êtes-vous conscient, à travers ces deux mots majeurs de l'Évangile d'aujourd'hui, voir et témoigner, que la qualité de votre témoignage dépend de votre contemplation, de votre fréquentation de la parole de Dieu, de votre amitié personnelle, de votre attachement personnel au Christ lui-même, qui est le sauveur du monde et de tous les temps, bien sûr, et qui a besoin de vous dans la société contemporaine pour dire les mots que vous voyez qu'il faut dire, parce que c'est vous qui connaissez le milieu dans lequel vous êtes. Et si vivant lui-même, au cœur de son Église, il souffle à votre esprit ou à vos lèvres les mots qui doivent être dits, alors le chemin de sa grâce sera aussi une lumière pour les autres. Ceci ne suffirait pas. Non seulement nous devons être des contemplatifs, mais aussi les gens dans notre témoignage doivent comprendre que nous sommes trop petits pour la grâce qui nous est faite, trop petits pour notre mission, et que comme le baptiste, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Malheur aux chrétiens qui donneraient l'impression qu'ils savent ce dont ils parlent, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent son sujet. Et béni soit celui qui, quand il donne son témoignage de feu, de tout son cœur, bien sûr, comme Jean-Baptiste l'a fait, un être de feu s'il en est, en même temps montre qu'il est totalement dépassé par celui dont il parle, alors peut-être il aura quelque chance de toucher les cœurs. J'ai commencé par l'exhortation apostolique Verbum Domini de Benoît XVI, je terminerai par elle. Dans sa deuxième partie, c'est-à-dire la place de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, il y a un paragraphe pour tout le monde, je trouve ça très bien. Un paragraphe pour nous, les évêques. Vous êtes sûr que la parole de Dieu a toute sa place dans votre ministère? Un paragraphe aussi pour nous tous, les prêtres. Est-elle au centre de notre ministère, de notre engagement, de notre vie? Et aussi, bien sûr, un paragraphe magnifique et très concret, d'ailleurs, sur les familles. Où est-elle, la Bible, dans une maison? Est-elle ouverte? Est-elle lue? Est-elle un lieu de rencontre pour les membres d'une famille? La place aussi pour les religieux, avec une affection particulière pour les contemplatifs. Mais un beau paragraphe pour vous, voilà, numéro 84, sur les laïcs, et surtout les laïcs qui sont engagés dans cette mission. Sur votre tâche, sur votre témoignage, voici les mots qu'il dit. Cette tâche vient de votre baptême. Elle doit pouvoir se développer à travers une vie chrétienne toujours plus consciente. Capable, c'est des mots que j'ai lus sous votre plume, hein. Capable de rendre raison de l'espérance qui vous habite. Et ensuite, après avoir cité Saint-Pierre ici, il se fonde sur une phrase du Christ qui est quand même une merveille et qui est vraiment notre plus grande grâce. Il dit, le champ, c'est le monde. Personne d'entre vous n'en doute. C'est là que vous êtes attendu. Le champ, c'est le monde. Mais la phrase suivante, magnifique, de Jésus dans Matthieu 13, le bon grain, ce sont les fils du royaume. Cela s'applique particulièrement aux chrétiens laïcs engagés. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Merveilleux. Où sont-ils, les grains? Dans la main du semeur. Et voilà la question par laquelle je voulais terminer. Et vous, qui êtes conscient de la responsabilité que vous portez et désireux de l'assumer, est-ce que vous êtes bien comme du bon grain dans la main du semeur pour pouvoir être jeté dans le monde?